37.
Alors, on va commencer Be'ezrat Hashem, nouveau chapitre, chapitre 37. Donc, c'est la page 137 dans ce Tania. Et dans le Tania en français, dans le Tania en hébreu, c'est page 92. Mais bon, c'est préférable de suivre dans celui-là. C'est préférable de suivre dans celui-là pour mieux suivre le texte.
Bonsoir.
Ça arrive, hein. Alors, on va commencer par une introduction. Je ne sais pas si l'introduction on la terminera avant la pizza ou après la pizza. Il va arriver dans 10 minutes environ. Je vais quand même commencer par l'introduction pour nous mettre un petit peu dans le bain. Dans le chapitre précédent, chapitre 36, on a étudié quand même, ça fait un bout de temps. L'Admor HaZaken avait expliqué, on était arrivé à la conclusion du Midrash qui dit que le but de la création de ce monde, c'est pour construire ici-bas, dans notre monde, une demeure, une maison pour Dieu. Voilà, donc je rappelle rapidement, on avait expliqué qu'il y avait plusieurs questions, plusieurs avis sur la question pourquoi Dieu a créé le monde, quel est son objectif. Je ne parle pas du comment, on est dans le pourquoi. Pourquoi Dieu a créé le monde, qu'est-ce qu'il a de ça? On a eu plusieurs réponses, et la réponse du Midrash, c'est que Dieu a créé ce monde parce qu'il a voulu construire une demeure ici-bas. Ça veut dire que son objectif depuis la création du monde, c'est transformer ce monde qui est un endroit hostile, qui est un endroit dans lequel Dieu n'est pas le bienvenu, transformer ce monde en un endroit dans lequel Dieu est le bienvenu. Donc le travail est long, c'est un travail très très long, puisque c'est un travail qui se passe dans chaque détail de notre vie. Chaque fois qu'on va faire un effort, qu'on va transformer un petit peu plus la matière, qu'on va faire une mitzvah, qu'on va se retenir de faire une avéra, etc. Chaque fois, progressivement, on transforme ce monde pour le rendre un endroit meilleur. Donc, vous voyez, donc on cherche à rendre ce monde un endroit meilleur, une demeure, une maison pour un Kadosh Baruch Hu. On avait terminé le chapitre en expliquant que ce but ultime sera atteint à quel moment? Évidemment, il sera atteint avec Mashiach. Lorsque Mashiach arrive, ça veut dire que Dieu estime qu'on a terminé le travail. Le travail du raffinement de la matière, le travail de préparer ce monde, d'en faire une demeure pour Dieu, ce travail est terminé, on peut enfin passer en production, on est enfin prêt. D'accord. Maintenant, le grand chidouche, la grande nouveauté de ce chapitre, qui est pas court, mais c'est un chapitre magnifique, chapitre 37, c'est d'expliquer comment, en vérité, l'avènement messianique ne se crée pas tout seul. C'est nous qui le créons. Ça, c'est le grand chidouche. Beaucoup de gens, ils pensent par erreur, comment ça fonctionne, ils pensent que Dieu, il te dit, écoute, comporte-toi comme il faut en exil, et si tu te rends, tu te comportes comme il faut, je vais t'envoyer le grand salaire qui est Mashiach. Beaucoup de gens pensent comme ça, même la majorité des gens pensent comme ça. Que Mashiach, c'est une sorte de récompense. C'est-à-dire que on va travailler, et on dit, bon ben voilà, maintenant, on va t'ouvrir une porte, la porte va s'ouvrir, on va entrer dans le monde de Mashiach. En fait, c'est faux. Mashiach, on le construit nous-mêmes. L'avènement messianique, on est en train de le construire. C'est pas que on avance et un jour on va nous ouvrir une porte. Pas du tout. On avance, mais on ne comprend pas forcément tout ce qu'on fait. Et viendra le jour dans lequel on ouvrira le rideau. Et c'est là qu'on verra que tout ce qu'il y aura lorsqu'il y aura Mashiach, on l'a en vérité construit maintenant. Très important à comprendre ça. Et vous allez voir que ça a beaucoup d'implications, ça. De comprendre que l'avènement messianique, on va le construire avec nos actions. Je vais vous donner un exemple concret. Comment on dit en hébreu la libération? Geoula. Geoula est composé de combien de lettres? 5 lettres. Gimel, Aleph, Vav, Lamed, He. 5 lettres. Si maintenant, de Geoula, j'enlève le Aleph. Donc le Aleph qui était la seconde lettre, je l'enlève. D'accord? Qu'est-ce que ça me donne? Bonsoir.
Gola.
Ça me donne 2 minutes. Ça me donne Gola. Gola, l'exil.
C'est le contraire.
Comment c'est possible que le même mot, à une lettre près, tu mets 4 lettres, c'est Gola. Gola qui veut dire l'exil, comme Galout. Je rajoute le Aleph, ça me donne Geoula. La libération. C'est très simple. Parce qu'en vérité, pendant l'exil, on construit. C'est maintenant qu'on construit. Et lorsque Mashiach arrive, qu'est-ce qui se passe? Dieu lui rapporte le Aleph. C'est quoi le Aleph? Aleph, c'est or, c'est la lumière. Il allume la lumière. Et dès qu'il allume la lumière, c'est là qu'on voit ce qu'on a construit. C'est là qu'on voit tout ce qu'on a construit et on voit comment c'est extraordinaire. D'accord? Donc, voilà ce qu'on va expliquer. Bon, après, on va faire une petite pause pour la pizza. Comprendre que c'est pas que l'époque de Mashiach, d'accord? N'est pas un salaire, mais c'est encore plus qu'un salaire. C'est une culmination, c'est un résultat direct de nos efforts. Ok, donc ça, on va développer trop longuement, mais on va faire une petite pause pour la pizza, c'est une introduction. Voilà, David, je pense qu'on est...
Il n'y a pas les assiettes, Marcel.
Hein? Reprenons. Donc on est dans le chapitre 37, on a commencé à expliquer que le grand chidouche, la grande nouveauté de ce chapitre, c'est le fait d'expliquer que contrairement à ce qu'on pourrait penser, Mashiach n'est pas une phase B qu'on accède après être passé et avoir bossé dans la phase A. C'est pas une retraite, d'accord, que tu t'es battu, s'il vous plaît. C'est pas quelque chose qu'on a construit pendant tous les 2000 ans d'exil, et que après, mais pas seulement ça, et 5177 ans d'histoire, et que après, on arrive à la phase B. Non. Mashiach, excusez-moi monsieur, on a continué le cours s'il vous plaît. Merci. Mashiach est la continuité. Mashiach est la continuité, et on construit Mashiach avec ce qu'on est en train de faire maintenant. En fait, j'ai dit retraite, ça me fait penser là, c'est ça la retraite en fait, c'est quoi la retraite? Les gens, ils arrivent à l'âge de 65, 70, ou je sais pas quel âge ça va arriver. Oh. et on leur dit, et arrivé l'âge de la retraite. C'est quoi la retraite? Qui c'est qui paye la retraite?
Les actifs, personne.
Ah non, j'ai compris, mais qui a payé cette retraite?
Personne ne va la payer.
Non, mais compris, mais qui a payé cette retraite? Elle n'est pas venue d'une part, cette retraite. C'est pas, t'arrives à un âge, on dit, bon, bah écoute, on va te payer.
C'est nous-mêmes.
Ah non, c'est ceux qui ont placé il y a 5700 ans.
T'as construit? Comme t'as construit, quand t'arrives à l'âge, alors là, on te donne pas ce que tu n'as pas construit, on te donne ce que tu as construit. D'accord? Alors, c'est un exemple. Veiné. On est à la page 137. Il y a encore des livres, hein. Il y a encore plusieurs livres ici qui sont pas utilisés. Veiné. Tar, l'itach lemout. Le but de la perfection. Shel yemot, amashiach, utriat, tametim. Des temps messianiques et de la résurrection des morts, qui est, comme on a expliqué dans les cours précédents, le dévoilement de la lumière infinie de Dieu dans ce monde matériel. C'est ça, Mashiach. Et ben ça, talouy bema'asenu va'avodatenu kol zman mesher agalut. Ça dépend de notre travail et de nos actions toute la durée de l'exil. Ça veut dire, le monde est composé 6 millénaires et le 7e millénaire. De la même façon que Dieu a créé le monde en 6 jours, le 7e jour c'était Shabbat. De la même façon, il y a 6 millénaires et le 7e millénaire c'est Shabbat, c'est Mashiach. Alors, comment Dieu il a construit le monde? C'est pas que direct, non, j'ai compris, mon Nasser, on est déjà à la fin. C'est pas qu'Akadosh Baruch Hu, il a commencé par un Shabbat. Il a commencé par un Shabbat, et après, une fois qu'il a commencé par le Shabbat, il a dit maintenant il y a 6 jours de boulot. C'est pas comme ça que ça fonctionnait. D'abord, il a commencé par travailler 6 jours, et après, Bayom Hashevi, Shabbat Vaïnafash. Le 7e jour, il s'est reposé, et c'est là qu'il s'est arrêté. C'est la même façon. Mashiach va venir après. Une fois qu'on a travaillé, une fois qu'on a investi pendant 6 millénaires, alors, on arrive maintenant au 7e millénaire dans lequel Mashiach arrive. Alors, ce qu'il faut comprendre, pour illustrer ça, on va illustrer ça par une Mishnah de Pirkei Avot, une Mishnah qui dérange beaucoup. La Mishnah dit comme ça. Srar mitzvah, mitzvah. Je traduis. Et je suis sûr que dès que je traduis, vous allez être choqués. Le salaire d'une mitzvah. C'est la mitzvah. Mais ça tombe pas rond, c'est pas logique. Imaginez, vous avez un employé. Vous l'embauchez, il travaille, etc. Arrive la fin du mois, il dit, bon, je veux le salaire de mon travail. Qu'est-ce que vous lui répondez? Le salaire de ton travail, c'est le travail. Il dit, mais non. Mais...
logique.
Ben non, tout travail mérite salaire. Le salaire, c'est pas le travail. Il y a le travail, il y a le salaire. Là, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, srar mitzvah, mitzvah. Le salaire d'une mitzvah, c'est quoi? C'est la mitzvah. Comment c'est possible? Mais c'est pas logique. Le salaire d'une mitzvah, c'est pas la mitzvah. Le salaire d'une mitzvah doit être quelque chose d'extérieur à la mitzvah. La mitzvah, c'est l'effort. Il devrait avoir autre chose qui résulte de ça. Eh ben non. Parce que le plus beau salaire qu'il y a, c'est quoi? C'est lorsque Mashiach va venir, Akadosh Baruch va nous ouvrir les yeux. Il va nous montrer, il va nous dire, regarde ce que tu as construit lorsque tu as fait la mitzvah. C'est le plus beau salaire. Il va dire, j'ai même pas besoin de te payer. Je vais te montrer ce que tu as construit pour toi lorsque tu as fait une mitzvah. Toi, quand tu as fait une mitzvah, tu disais, ouais, ça me prend la tête, je préfère rester dormir, je préfère rester chez moi à la maison, je veux faire un effort, je veux venir à un cours, je veux venir à une prière, je veux venir à un truc. J'ai donné à Dieu. Ça veut dire, moi, en vérité, je voulais être tranquille, j'ai donné à Dieu. Le plus grand salaire qu'il y aura lorsque ma chère va venir, c'est que Dieu va nous ouvrir les yeux, il va te montrer, il va dire, regarde, toi, tu crois que tu m'as rendu service quand tu as fait une mitzvah. Mais tu m'as pas rendu service, j'ai pas besoin de ta mitzvah. En vérité, tu t'es rendu service. Tu as construit toi-même ton salaire. Tu as construit toi-même ton patrimoine. Ma retraite. Bon, peut-être la retraite, c'est pas un exemple qui est parfait.
Si, c'est un bon d'accord. Si.
Tu as construit toi-même, d'accord, ton salaire. Parce que dans la retraite, c'est pas un exemple parfait, parce que dans la retraite...
Non, parce que ton salaire, tu l'as quand tu travailles.
Là, si vous voulez, je construis la chose elle-même. C'est-à-dire, moi, je crois que je travaille, mais en vérité, je suis en train de construire mon salaire. Et c'est ce que dit la Mishnah. Srar mitzvah mitzvah. Le salaire d'une mitzvah et le fait même d'accomplir la mitzvah. D'ailleurs, c'est valable aussi pour le contraire. C'est quoi la plus grande punition d'une avéra? C'est l'avéra elle-même. Lorsque ma chère va venir et que Dieu va nous ouvrir les yeux, et qu'on va voir, l'avéra qu'on a fait, on va voir l'impact qui s'est passé lorsqu'on a fait une avéra, je vais dire, Dieu, tu n'as même pas besoin de me punir. Le fait même de voir les dommages que j'ai causés par ma avéra, c'est la plus grosse punition que je peux avoir. Et c'est écrit que c'est comme ça que ça se passe en haut. Après 120 ans, c'est comme ça que ça se passe. Et encore plus, lorsque ma chère arrive, c'est comme ça que ça se passe. Dieu nous montre simplement le résultat de ce qu'on a fait. Donc avec ça, on comprend comment Mashiach, on va développer encore, comment Mashiach n'est pas une nouvelle phase. C'est pas une nouvelle phase. C'est le résultat de la phase de l'exil. En exil, on a construit. Et lorsque Mashiach arrive, on profite. Maintenant, ça dure Kol Zman Meshech Hagalut. Ça dure tout le temps de l'exil. Ça veut dire que c'est une construction qui s'est passée pendant des millénaires. Il y a beaucoup de gens qui posent la question, ils disent, mais comment on peut dire qu'aujourd'hui on est une génération qui est proche de Mashiach? On connaît l'état de la génération. Chacun, il se connaît. Chacun, il connaît l'état de son entourage. Chacun, il connaît l'état de sa famille. Chacun, il connaît son avancée dans la Avodat Hashem. Il dit, comment tu crois que la génération des maîtres comme Rabbi Akiva et comme je sais pas qui, ils n'ont pas eu Mashiach et nous, on va avoir Mashiach? Attends, ouais, c'est pas possible. Pour ça, le Rabbi répondait très simple, de façon très simple à cette question. Il dit que notre génération, nous sommes comme, je dis en hébreu d'abord, Nanas Algabe Anak. Un nain sur un géant. Imaginez que vous avez un géant qui est là, et t'as un nain qui monte sur le géant. Maintenant, le nain, ça reste un nain. Mais étant donné qu'il est sur un géant, donc du coup, il atteint très très haut. C'est exactement notre situation. Les générations d'avant, depuis la création du monde, ont construit. Ils ont construit. Ils ont changé le monde progressivement. On se rend pas compte, c'est en coulisses, mais ils ont changé le monde. Ils ont rendu ce monde un endroit dans lequel Akadosh Baruch Hu peut habiter plus facilement que ce que c'était à la création du monde. Regardez, quand on lit l'histoire de la création du monde. Regardez, il suffit de voir la paracha la semaine dernière, la paracha cette semaine. On voit comment Dieu a construit le monde, la débauche qu'il y avait dans le monde. Catastrophique. Des gens qui ont tout vu, des gens qui ont été créés par Dieu, etc. On a vu la catastrophe. La débauche, les hommes, les animaux, les hommes qui vont... C'est une catastrophe que même aujourd'hui, on est très très loin de cette catastrophe. On a vu aussi Sodome et Gomorre. On a vu comment le monde, progressivement, a changé. Que des choses qu'on faisait à l'époque, aujourd'hui, on ne les fait plus. Donc ça veut dire qu'on a fait du chemin. On ne peut pas dire qu'on n'a pas fait du chemin. On a fait du chemin. C'est qu'on n'est pas arrivé encore. Bien sûr qu'on n'est pas arrivé. Mais non. Te dire qu'aujourd'hui, on est comme on était avant, c'est une grave erreur. Rappelez-vous le cours qu'on avait fait avant les vacances.
Le mariage homosexuel. Donc ça
va... Oui, mais ça c'est des bêtises, ça. Ah non, mais c'est des bêtises, ça. C'est bon, c'est rien, ça. C'est pas de ça que je parle. Je parle que quand on prend, rappelez-vous le cours qu'on avait fait avant les fêtes, quand on avait expliqué, quand on prend l'image générale, quand on voit l'avancée du monde, on voit clairement qu'on avance. C'est clair, ça. Quand on voit le plan général, ça va pas sur des détails. Bien sûr qu'il y a des problèmes. Mashiach n'est pas là. Personne ne dira le contraire. UNESCO, tout ce qu'on veut. Mashiach n'est pas là. Ça, il n'y a pas de question dessus. Mais il y a du chemin. Il y a du chemin. C'est clair qu'on avance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque micro-victoire qu'on a avec le Yetzer Hara, on est progressivement en train de créer l'avènement messianique. D'ailleurs, il est écrit dans la Parasha Bereshit, Veruach Elohim Merachef et Alpene Amaim. Lorsque Dieu a créé le monde, au tout début de la Parasha Bereshit, Veruach Elohim, l'esprit de Dieu soufflait Alpene Amaim sur l'eau. Dit le Midrash, dit c'est quoi l'esprit de Dieu qui soufflait sur l'eau, qui flottait sur l'eau. C'est quoi cet esprit de Dieu? Vous savez ce que dit le Midrash? C'est quoi? Le Midrash dit Zeruho shel Melech HaMashiach, c'est l'esprit de Mashiach qui plane sur la terre depuis la création du monde. Il plane, il attend, il est là, il plane. Il est là autour de nous, il plane, là partout, là il plane. Il plane, il attend. Il attend que le monde soit prêt pour l'accueillir. Et là, bien sûr, quand le monde sera prêt, alors Akadosh Baruch Hu, il punira ceux qui méritent une punition et il récompensera ceux qui méritent une récompense. Faut pas se focaliser sur les goïms, faut se focaliser sur les juifs. Faut voir les Bnei Israël. Où ils en sont? Est-ce qu'ils ont fait du chemin spirituellement? Est-ce qu'ils n'ont pas fait du chemin? Et je parle même pas d'accomplissement de Torah Mitzvot, je parle où ils en sont moralement. Est-ce qu'ils ont avancé ou est-ce qu'ils ont reculé? Là, on voit que progressivement, on n'est pas arrivé encore, ça, personne ne dit le contraire.
C'est marqué que tout a été accompli déjà.
Si ma chère n'est pas là,
c'est... Oui, ça, que tout est accompli, que tout est...
Le travail est accompli, oui, mais ça veut dire qu'il reste maintenant les derniers détails.
Les petites touches.
Petites touches, le finish.
Les boutons brûlent.
Le finish.
Tout est finish.
Le finish, c'est pas le finish, il manque le finish. Maintenant, on doit terminer les derniers détails.
Oui, il manque quoi?
Le finish. Le finish, ça prend du temps, le finish.
J'ai même mis l'origan sur la pizza, j'ai tout fini.
Le finish. les dernières touches, c'est ce qui nous manque maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Bah, si vous partez défaitiste, ça finira jamais, oui. Pourquoi ça finira jamais? Monsieur Benita, vous croyez que Dieu a créé le monde pour rien? Il a créé le monde pour laisser tourner comme ça, comme une usine. Imaginez, vous créez une usine, imaginez vous êtes PDG, vous créez une super usine, vous la laissez tourner. T'es obligé d'avoir un PDG derrière qui l'a fait tourner. Vous croyez que Dieu il a que ça à faire, à créer un monde, à laisser tourner comme ça, pour que ce soit la catastrophe? Il n'a pas de plan. Je veux dire, même nous qui sommes des hommes en chair et en os, quand on construit quelque chose, on a un plan.
Ben oui.
Et si le plan ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on envoie le déluge, on détruit tout. Ah, pourquoi Dieu n'envoie pas un déluge maintenant? Ah, il a déjà, donc il est bloqué par un contrat, vice de forme. Ah ben non, mais ben, ça marche pas comme ça. Mais pourquoi Dieu il a promis cette promesse?
Il a promis, c'est ça.
Il a fait ça? C'est comme ça, il a promis, après il dit, ah ben désolé, je suis bloqué maintenant, j'ai promis, je suis trop tard. Si j'avais pu, j'aurais envoyé un maboule, mais je le fais pas. Pas du tout. Bien sûr qu'il y a un plan. C'est évident qu'il y a un plan. Est-ce qu'on comprend à 100%? Je ne sais pas. Mais c'est évident qu'il y a un plan d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est évident que dans ce plan, on avance. Parce que sinon, on perd notre temps. Et il perd son temps, c'est encore pire.
On met la deadline, tu m'as dit que c'est 6000. Alors on est 5600.
Mais on y est, ça y est, c'est fini, on y est là, c'est proche. Non. Ça, c'est la date limite si on n'est pas méritant. Même si on n'est pas méritant.
Ah, ça veut dire la date limite.
C'est la date limite.
Quoi qu'il arrive en 6000.
Date limite, en 6000. Quoi qu'il arrive.
Est-ce qu'on a un peu d'ADN?
Qui vous dit qu'on n'est pas méritant?
Il serait là,
sinon. Non. Peut-être qu'on est méritant, on est presque méritant, c'est presque prêt.
Un peu d'ADN.
Au moins, c'est ancien. Ça enlève 100 ans, quoi.
Quoi?
On fait rentrer Shabbat avant.
Je vais vous dire, nous on fait rentrer Shabbat plus tôt, nous.
Shabbat est défaite.
Shabbat, on ne fait pas rentrer à la nuit, on fait rentrer plus tôt, Shabbat.
Bien sûr.
Le temps que. On est,
quand,
lorsqu'on allume les bougies, il fait encore jour ou il fait déjà nuit?
Jour.
Alors? Comptez? 5677, c'est quoi? C'est fini, on a déjà dépassé trois quarts de la journée. On y est?
Avant les élections,
Américaine,
moi,
j'ai déjà. Ça change rien. Rien du tout. Raïm.
Trump, c'est pas le machin, non?
Ni Hillary, hein. Hillary, c'est pire.
Ouais, mais
c'est
pire,
voilà. C'est... Faut pas se tromper, alors.
Ouais, il faut pas se tromper. Mais Hillary, c'est quand même. Bah oui. Trump, c'est la merde, mais Hillary, c'est
reste. Bon, allez, ça me gêne. Bon. De toute façon, je vais vous dire ce que dit le Zohar. Le Zohar dit qu'une fois qu'une personne devient chef donc d'un pays, Dieu, si c'est un goy, hein, Dieu lui enlève son libre arbitre.
Il enlève le libre arbitre.
Oui. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, il est dirigé par un prince céleste en haut qui lui dit quoi faire. Très sérieux ce que je vous dis. Et on l'a vu des centaines de fois. Regardez Obama, puisqu'il a promis, tout ce qu'il a dit, etc. Regardez comment concrètement il a fait ce que Dieu voulait qu'il fasse.
Attends, il n'a pas terminé Obama, il a promis un truc là, il n'y a même pas un mois, il a dit qu'il...
Mais je parle pas, mais regardez ce qu'il a promis, ça fait avant qu'il a commencé. Regardez ce qu'il a...
Bon. Il a
un livre avec limité, on va dire ça comme ça. Mais c'est la réalité, on voit clairement.
Parce qu'ils sont confrontés à des réalités...
Ah ça, il ne savait pas avant.
Non,
il ne savait pas avant.
Des réalités économiques...
Il ne savait pas qu'il avait un Sénat, il ne savait pas qu'il était minoritaire, il ne savait pas...
Moi, je viens penser...
Bon. Alors reprenons. Je vais faire le Tania. Bien sûr. Non, attention. Non. Ça, un juif, c'est différent. Un juif, c'est écrit clairement. Ce que je vous dis, c'est des choses qui sont écrites. Hein, c'est pas des choses que j'invente. C'est écrit clairement qu'un juif, c'est Rashi qui le dit, c'est le Zohar qui le dit, c'est le Midrash qui le dit, que le juif, il conserve son libre arbitre dans tous les cas. C'est-à-dire que le juif qui devienne premier ministre ou qui ne soit pas premier ministre, il conserve tout le temps son libre arbitre. Et on le voit clairement, tout le monde le sait qu'en vérité, qui c'est qui va diriger? C'est son staff qui va diriger. C'est quoi, c'est?
Quand il meurt, il ne paye pas sur l'ordre.
Tu as vu quand il meurt?
Bien sûr qu'il paye, parce qu'il y a un libre arbitre limité quand même. Mais ça n'a rien à voir avec un juif. Ils ont un sar, ils ont un prince correspondant, un ministre correspondant dans le ciel qui leur dit exactement quoi faire.
Est-ce que maintenant, entre nous, parce qu'on est des hommes, c'est vrai que c'est pas bien que ce soit une femme qui dirige?
Non.
On a eu des femmes qui dirigent.
C'est pas son travail. Non, non, pas son travail. Après, si c'est une femme, c'est pas son travail. Non.
Voilà, c'est ça. Tu réponds. Ça est arrivé dans la Torah. Dans le canard. Déborah.
Non, jamais elle dirigeait. Jamais elle dirigeait. Jamais dirigée.
Elle était guide.
Jamais dirigée. La Torah donne pas la Torah n'a jamais de mais c'est bon c'est un autre débat parce que pour diriger il faut être capable d'aller au-delà des sentiments et ça une femme est incapable de faire. Une femme est incapable d'aller au-delà des sentiments. Une femme les sentiments sont plus forts chez elle que l'intellect. C'est la réalité ce que dit la Gemara ça. Mais c'est pas un défaut au contraire, c'est Dieu l'a créé avec des qualités maternelles, féminines, etc. qui sont pas comme les hommes. Maintenant comme je vous dis après il y a des femmes qui vont éteindre ça, qui vont changer, qui vont devenir comme des hommes. Pour l'égalité des sexes, ils vont devenir comme des hommes. Bon. Ça, j'en sais rien. Bon, ok. En tout cas, revenons à notre sujet. En bas de la page 137. Qui a gorem srara mitzvah? I a mitzvah beatzma. Ce qui est la cause, ce qui façonne la récompense de la mitzvah, et la mitzvah elle-même. C'est ça le chidouche. C'est pas que je fais une mitzvah, et Dieu me donne une récompense sur ma mitzvah. Non. La mitzvah elle-même, c'est ma récompense. La plus belle récompense que je peux avoir, c'est lorsque Akadosh Baruch Hu me montre le résultat de ce que j'ai fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe lorsque j'accomplis une mitzvah? Maintenant, ici-bas, sur Terre, en 5277, qu'est-ce qui se passe lorsque j'accomplis une mitzvah? Nous, on pense, avec notre esprit limité, on dit, lorsque j'accomplis une mitzvah, j'ai accompli un ordre de Dieu. Dieu, il m'a donné un ordre, j'ai accompli ce qu'il m'a demandé, presque je lui ai rendu service. Mais pas du tout! Regardez ce qu'il dit. On tourne la page. Kibasiyata! Car, lorsqu'un homme accomplit une mitzvah, Mamshir à Adam, l'homme fait descendre, attire vers le bas, Gilui Or en Sof Baruch Hu, Milmala Lemata, il amène une lumière divine extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu, Milmala Lemata du haut vers le bas, Leiklabesh Begashmiut Olamazé, pour s'habiller dans la matérialité de ce monde-ci, Bedavar Shaya Trila Tachat Mshelet Kilpat Noga. Et une chose, notre monde était un monde qui était d'abord sous le contrôle de Klipat Noga, on va expliquer tout de suite. Ou Mekabel Chayuta Mimena, She'em Kol Atvarim Atorim Mutarim Shenaset Bahem Amizat Maasit. Exemple. On va prendre un exemple concret. Imaginons des téfilines. Comment on fait les téfilines?
Comment on fait quoi?
Comment on les fait? Comment on fait les téfilines? Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc on prend de la peau de cuir. On prend de la peau de cuir. La peau, d'où vient cette peau de cuir? Un parchemin, d'où vient ce parchemin?
Une vache.
Une vache, d'accord. Donc on prend cette vache. Cette vache, elle est quoi? Elle est kadosh ou elle n'est pas kadosh? La vache avec laquelle on a fait météphiline. Essayez d'imaginer demain matin que vous allez mettre les téphilines. Essayez d'imaginer le circuit depuis la vache jusqu'au vos téphilines. Imaginez que vous auriez pu rencontrer la vache avec laquelle on a fait vos téphilines.
Apparemment, elle est pas kadosh.
Attendez, réfléchissez. Imaginez qu'on arrive à vous mettre retour en arrière, on vous montre la vache avec laquelle on a fait vos téphilines. Qu'est-ce que vous aurez dit?
La vache a fini.
Vous l'aurez embrassé, la vache?
Ou dans notre assiette?
Non. Hein? Qu'est-ce que vous aurez dit? Bon, vous aurez dit bon, c'est une vache. D'accord? Vous aurez dit c'est une vache, en particulier.
Parce que la vache, elle a son rôle.
C'est? Alors, est-ce que la vache, avant qu'on la commence à la travailler, est-ce que c'était une mitzvah?
Non,
c'était pas une mitzvah. Alors, c'était quoi? Très simple. C'était ce qu'on appelle Klipat Noga. Klipat Noga, ça veut dire quoi Klipat Noga? Klipat Noga, ça veut dire quelque chose qui est neutre, qui est ni mitzvah, ni avera. Klipat Noga. Maintenant, des Klipat Noga, il y en a partout dans le monde. Tout ce qui est autour de nous, c'est que du Klipat Noga. Je parle pas des hommes, je parle de la nature. Tout ce qui est autour de nous. Vous prenez, regardez, on va sortir. Il y a de l'air, il y a des arbres, il y a des routes, il y a tout ce que vous voulez. D'accord? Il y a des plantes. Tout ça, c'est quoi ça? C'est du bien, du mal? Tout ce qui est autour de nous, l'écrasante majorité de ce qui est autour de nous, c'est quoi? C'est du Klipat Noga. Klipat Noga, c'est-à-dire que c'est des éléments neutres. D'accord? Ce sont ni mitzvah, ni avera. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ces éléments neutres? Progressivement, on les utilise, on va expliquer s'il vous plaît. Progressivement, on les utilise pour un Kadosh Baruch Hu. Exemple. Un exemple concret, je vais vous donner. Pour venir depuis chez vous, ce soir, vous êtes venu à un cours de Torah. D'accord? Vous êtes venu à un cours de Torah, donc peut-être vous êtes venu en voiture. Donc, vous êtes sorti de chez vous à la maison. En sortant de chez vous à la maison, vous avez mis des chaussures. Ces chaussures, c'est quoi? C'est un élément qui est neutre. Mais vous les avez mises pour aller à un cours de Torah. Sans ces chaussures, vous aurez eu du mal à venir au cours de Torah. Donc les chaussures vous ont aidé à aller au cours de Torah. dans ses chaussures, il y a aussi des lacets. Il y a aussi une semelle. Donc il y a déjà plus plein de matière, là. Ensuite, vous avez ouvert votre porte. Dans votre porte, il y a une poignée. Je vous rends fou un petit peu, là. Dans votre porte, il y a une poignée. D'accord? Il y a une vis. Il y a une porte. Il y a du bois. Maintenant, cette porte, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez fait avec cette porte? Vous l'avez ouverte. Donc ça veut dire qu'elle vous a, elle a été dans votre chemin pour aller vers le cours. Ensuite, vous avez pris un ascenseur. Vous êtes descendu par les escaliers. Vous avez pris une voiture, peut-être. Vous avez pris une voiture. Vous êtes passé par une route. Cette route, elle était goudronnée. Mais cette route, elle est pas venue nulle part. Il y a quelqu'un qui l'a goudronnée, cette route. Ce goudron, il a été généré par quelque chose. Il y a eu des employés qui ont fait ce goudron. D'accord? Vous avez roulé. Vous avez roulé avec de l'essence. Cette essence, elle n'est pas nulle part. Bah oui. D'accord? Tout. Mais réfléchissez. Ça n'arrête pas. Vous avez respiré de l'air. Cet air vient pas de nulle part.
On a tout spiritualisé. D'accord? La pizza vient de chez David.
Oui, ça c'est clair. D'accord? Il a mis des chaussures pour l'amener. Donc, vous avez, ensuite, vous avez mis la voiture. Vous avez garé la voiture.
Pas de chaussures.
Vous avez marché dans la rue pour venir ici, pour entrer. Vous avez fait un code. Pour, vous avez ouvert une porte. Vous avez marché. Vous avez porté des vêtements. Tout ça, c'est quoi tout ça? Tout ça, ce sont des choses que vous avez utilisées pour venir en cours de Torah. Qui ont participé à votre venue en cours de Torah. Vous avez même peut-être regardé votre montre. Donc votre montre vous a aidé à vous rappeler que c'est l'heure du cours. Peut-être même que l'heure était sur la télé, qui est un objet de Touma. Mais cette fois-ci, elle vous a servi à regarder l'heure.
Là, comment je vais spiritualiser l'Apple Watch? Je l'ai amené spécialement pour le cours.
Tu vois? Et peut-être que maintenant, vous me regardez avec vos lunettes. Donc vos lunettes sont devenues kadosh. Bon. Et là, on est éclairé par des lumières. Ça s'arrête pas. Il y a du bois, il y a du papier, il y a des pizzas, il y a, voilà. Ça s'arrête pas partout. Quand on réfléchit, en vérité, tout ce qu'il y a autour de nous peut être au service de Dieu. C'est ça, en vérité. C'est du klipat noga, tout ça. Tout ça. À commencer depuis mes vêtements, mes chaussures, le sol dans lequel j'ai marché, la porte, la voiture. C'est du klipat noga. C'est des éléments neutres. Mais c'est des éléments neutres que j'ai pris et qui m'ont aidé, qui ont été un accessoire de mitzvah. Alors, il y a encore plus fort. C'est quand c'est pas seulement un accessoire de mitzvah, quand c'est carrément la mitzvah elle-même, comme les téfilines. Les téfilines, c'est devenu un objet de mitzvah elle-même. Mais c'est la même chose. Chaque fois que je fais ça, qu'est-ce que je fais? Je prends un objet qui était sous le contrôle de la kippat noga, qui était sous le contrôle, sous un contrôle neutre, je le prends et je le mets dans le domaine de la kedusha. Maintenant, le sol que je vais utiliser, la voiture que je vais utiliser, elle a peut-être pas servi qu'à faire des mitzvot. Elle a servi aussi à faire des bêtises, peut-être. Peut-être elle a servi à autre chose. Ok, donc, il y a l'un, il y a l'autre, il y a les deux. Mais il faut bien comprendre que chaque action qu'on le fait, involontairement, on est en train de générer plein de lumière autour de nous. Et c'est ce qui se passe. Lorsque je fais une mitzvah, au-delà de l'action concrète que je vais faire, j'ai mis les téfilines, je suis venu en cours de Torah, ça c'est l'action concrète que j'ai faite, il y a plein d'éléments annexes autour, dans lesquels, que je veuille ou que je ne veuille pas, je change le monde. Je change le monde autour de moi. Donc en changeant le monde autour de moi, progressivement, j'approche la venue de Mashiach. Je change le monde, je rends ce monde un endroit meilleur. C'est valable dans le mien, c'est valable aussi malheureusement dans le mal. Dans le mal aussi. Quand je fais Ras V'Shalom une Avera, tout ce qui a collaboré à l'Avera, malheureusement, tombe avec moi. Donc quand je fais une mitzvah en hébreu, qu'est-ce qui se passe, qu'ils disent ici? Lorsque je fais une mitzvah, je fais descendre une lumière d'Akadosh Baruch Hu dans des éléments qui étaient les éléments neutres, et je les rends tahor, je les rends kadosh, je les transforme en objet de mitzvah pour un kadosh baruch, sans même me rendre compte. Vous savez ce que dit Baal Shem Tov? Baal Shem Tov va encore beaucoup plus loin que ce que j'ai dit. Baal Shem Tov, il dit, même si vous n'êtes pas en train de faire une mitzvah, vous marchez dans la rue. Un juif qui marche dans la rue, c'est déjà un but en soi. Ah bon? Comment ça se fait? C'est très simple. Qu'est-ce qu'il a en lui, le juif? Il a une neshama. Donc, qu'il le veuille ou qu'il le veuille pas, même s'il fait des bêtises, il irradie autour de lui. Donc, pour la vera qu'il a fait, on le punira, pas de problème. Mais à l'endroit où il est marché, par le fait même qu'il est marché par cet endroit, il a irradié autour de lui. Donc, vous comprenez que ça a très clairement de quoi nous rendre fous. C'est-à-dire, à un moment, on arrête de réfléchir, on se dit, attends, c'est pas possible. C'est-à-dire que là, vous voyez, juste, tu te lèves, tu marches, tu mets un vêtement, tu fais comme ci, tu fais comme ça, parce que là, j'ai bougé un peu d'air, là, vous voyez, là, j'ai bougé un peu d'air, et là, je l'ai repris, et là, j'ai parlé, donc j'ai bougé tout l'air du monde, tout l'air de la planète. Là, ma parole, elle a bougé tout l'air de la planète. C'est la vérité. En physique, on explique. Alors, tu dis quoi? Ben oui, j'ai changé le monde.
C'est l'effet papillon.
D'accord. Mais c'est plus que l'effet papillon. C'est beaucoup plus. C'est-à-dire qu'en vérité, quand on avait fait un cours sur ça fait 2 ans, on avait dit que lorsque je parle, par exemple, je génère une onde vocale. Cette onde vocale va s'étendre dans le monde entier. Seulement, on n'a pas les outils adéquats pour écouter. Mais si on avait les outils adéquats pour écouter, d'ailleurs, les services secrets ont des outils pour aller, pour pousser très très loin à plusieurs kilomètres, ils sont capables d'entendre, à 10 kilomètres d'ici, l'onde vocale qui est ici. Après, il faut être capable de réduire, de, ça veut dire qu'il y a tellement d'ondes vocales, donc il faut être capable de, il faut être capable de filtrer, d'analyser, de concentrer. C'est ça le plus compliqué. Mais les ondes vocales sont là. C'est-à-dire que là, maintenant, le mot de Torah que je viens de vous dire, il vient de faire le tour du monde, il est même allé jusqu'à la Lune. Il est en train d'aller maintenant jusqu'à la Lune.
Non, laisse-le le temps quand même.
On va pas dormir cette nuit.
Ah bah oui, c'est la vérité.
Laisse-le le temps.
Le mot de Torah, et pareil, le Lashon Hara aussi, attention. Le Lashon Hara que j'ai fait, il a fait le tour de l'univers. Il a poussé l'air de l'univers, donc il est partout. C'est une onde qui est dans l'univers. On le sait ça. Avec les ondes électromagnétiques, les ondes radio et aussi même les ondes vocales, on le sait clairement. C'est quelque chose de concret. Donc quand tu réfléchis à ça, tu comprends qu'en vérité, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on construit.
Ou on détruit.
Ou on détruit. Ou on détruit. Mais en tout cas, il se passe des choses. Il n'y a jamais une journée dans laquelle il se passe rien. Ça n'existe pas. Des fois, t'arrives une journée, t'as fait un dimanche comme ça, bon, il bulle, et t'as rien fait. Tu crois que t'arrives à la journée, tu dis, moi j'ai rien fait aujourd'hui. Ça n'existait pas une journée où t'as rien fait. C'est impossible. Le fait même que t'as respiré, t'as existé, c'est déjà quelque chose. Alors après, tu peux faire plus, tu peux faire moins, mais t'as déjà fait quelque chose. Donc voilà, c'est ce que tu dis l'Admor HaZaken. L'Admor HaZaken, il t'explique, il te dit, ce qui amène Mashiach, c'est tous ces petits moments. Tous ces petits moments. Alors maintenant, imaginez, nous on est là, après 5777 ans d'histoire, on a imaginé que le sol qu'on foule et la terre dans laquelle on se trouve, ça fait 5777 ans qu'elle habitait. Donc, entre-temps, elle a vu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses. La matière, elle a changé, elle a beaucoup changé, elle a évolué. Donc, on est incapable de savoir si la matière est prête, oui ou non, à accueillir Mashiach. C'est pas est-ce que nous, on est prêts. Est-ce que la matière est prête à accueillir Mashiach? David, tout à l'heure, il a dit, nous, on est prêts à accueillir Mashiach. C'est une question, ça. Je sais pas si on est prêts. T'es prêt, David, à accueillir Mashiach?
Ah, je peux dire qu'on était prêts. Le rabbi a dit que tout avait été accompli.
Moi, je demande toi. Est-ce que toi, David, tu es prêt à accueillir Mashiach?
Écoute, a priori, je suis à...
Non, pas a priori. Imagine-toi, Mashiach, il arrive.
Ah, je le suis à 15%.
Vas-y, dis-moi. 15. J'aimerais que David, tu nous propulses un peu. Voilà. Imagine-toi que Mashiach arrive maintenant. Qu'est-ce qui se passe?
C'est-à-dire qu'on va faire la bracha.
Non. Toi, David, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Imagine-toi, ma chère arrive maintenant.
Il va rien se passer, on va continuer à travailler. On va continuer.
Tu vas rester Zaps, Boulevard Masséna.
On va rester Zaps, Boulevard Masséna. On va juste savoir ce qui est pur, ce qui est impur, ce qui est interdit, ce qui est permis. Et ceux qui ne le savent pas encore, eh ben, ils vont l'apprendre.
Ah, donc c'est-à-dire finalement, c'est que pour ceux qui ne savent pas encore.
Voilà, c'est-à-dire qu'après, on va vivre.
Mais toi, qu'est-ce qui va changer dans ta vie?
Concrètement?
Oui.
C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un arbre qui ne produit pas de fruits, ben, il va produire des fruits.
Ah, c'est pour ça que
je n'aurai plus qu'à les cueillir.
C'est pour ça que tu es dans ma chère? Pourquoi tu manques de fruits?
Oh, c'est pour ça que j'entends ma chère. Oui, c'est pour ça que j'entends ma chère.
Pour avoir des fruits dans l'arbre?
Non, c'est... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le mal va disparaître.
Hein?
Le mal va disparaître.
Ah, c'est autre chose, oui.
Le mal va être séparé du bien. On saura ce qui est bien, on saura ce qui est mal.
C'est quoi le mal?
On ne sait pas vraiment ce qui est mal aujourd'hui.
Le mal, c'est ce qui est contraire à la volonté d'Hachem. C'est tout. À la volonté d'Hachem. Alors, dans les mots, on va continuer un petit peu. Donc. Kiba Siyata, je vais reprendre la page 138. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Il y a des questions?
Non, oui. Est-ce que les mots Torah comptent double? Chaque individu
a un stock de... Il y en a qui comptent triple.
Alors, excusez-moi, j'arrive pas à entendre. Chaque individu
a un stock de mitzvah à faire par rapport à la mission qui lui a
publié. Un stock de 613.
À travers toutes ces mitzvot qu'il va faire, qu'il va accomplir, il va récupérer ce stock de lumière.
C'est pas forcément un stock de mitzvot. C'est, il a un stock, il a un travail à faire.
Oui, mais ce travail, il inclut...
Il a un travail à faire. C'est comme, je donne un exemple, je vais donner un chantier à quelqu'un. Je vais lui dire, voilà, il faut me rénover le mur. Après, il peut me le faire en 10 couches de peinture, en 15 couches de peinture, il peut me le faire en 10 jours, en 1 jour. Ce qui compte, c'est que le mur doit être rénové. C'est-à-dire que le travail qu'on fait, on peut le faire plus vite, on peut le faire moins vite. En général, Dieu nous donne le nombre d'années qu'il faut par rapport au travail qu'on a besoin. C'est sûr. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on ne vit pas une seconde de plus que ce qu'il y a besoin. Ça veut dire qu'une personne qui est décédée, par exemple, très jeune, c'est qu'il a terminé son travail. Son travail est terminé. Son quota qu'il devait réparer dans le monde, s'il correspond à la scène des chamas, il est terminé. Mais nous, on n'est pas... C'est impossible de comprendre. Quand vous entendez parler des fois des chasvei shalom, des enfants qui partent, tu comprends pas. Tu ne peux pas comprendre. Comment tu veux comprendre? C'est pas possible. Et en vérité, c'est ça, en vérité, la réponse. La réponse, c'est que pour comprendre ça, il faut être capable de comprendre qu'est-ce que cet enfant a construit dans sa vie, qu'est-ce qui manquait dans l'incarnation précédente, et quand tu as toute l'image, c'est là que ça sera clair. Aujourd'hui, c'est pas clair, parce qu'on connaît pas tout ça. Mais ça veut dire que, si vous voulez, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on pense principalement à la survie. Pour nous, c'est un monde dans lequel il faut survivre. C'est un peu comme les animaux, quoi. Il faut survivre, ça veut dire qu'il faut avoir à manger, il faut pouvoir manger, boire, dormir, nourrir une famille, comme les animaux. Et bon, pourquoi pas, on est aussi croyant, on a aussi une Torah. Mais en vérité, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus. Ça, c'est ce qui se passe sur la surface. Mais en coulisses, chaque fois que je fais une mitzvah, je change le monde. Mais ça, je ne me rends pas compte. Mais Dieu me demande pas que je me rende compte non plus, hein. Je peux pas me rendre compte, je vois pas. Mais c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Donc on construit le mot messianique. Il y avait une question, Vam.
Non, je disais, est-ce que le fait de faire des mots de Torah, est-ce que ça compte beaucoup plus que la généralité de dire les mots de Torah?
Évidemment.
Est-ce que ça compte double, par exemple?
C'est pas que ça compte double, c'est que...
Est-ce que le monde avance plus vite?
Lorsqu'on dit un mot de Torah, on génère une lumière qui n'était pas là. Donc on illumine l'endroit dans lequel on se trouve. C'est, voilà. Bon, un lieu dans lequel, c'est chez vous à la maison, dans votre voiture, ici à la synagogue, chaque fois qu'on étudie un mot de Torah, ça illumine l'endroit. On n'a pas idée combien cet endroit doit être illuminé avec tous les cours de Torah qu'on a fait. Chez vous à la maison aussi, dans votre voiture. Mais ça, on ne le voit pas. Ça, on ne le voit pas. Vous allez vendre votre voiture. Vous allez la vendre, quelqu'un va l'acheter de l'occasion. Vous n'allez pas lui dire, ma voiture, elle a été illuminée par 10 000 heures de cours de Torah, elle va vous prendre pour un maboule. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Tu veux dire, tu sais, ma voiture, elle a coûté 10 000 heures de cours de Torah.
L'endroit est saint.
Il y a avant.
Ou alors, celui à qui tu vois, il faut qu'il ait fait des cours de Torah pour comprendre.
Oui.
Donc tu lui transmets, tu parles avec lui d'un truc qu'il connaît. Mais si tu parles à quelqu'un...
Autant que tu peux la vendre 1 000 euros
plus cher.
Tu peux la vendre plus cher ou pas?
Tu peux la vendre plus cher, puisque...
Ben justement, regardez. Qu'est-ce qu'on prend pour faire, justement, puisque non, mais c'est intéressant. La continuité, le recyclage. Qu'est-ce qu'on fait? Quel animal on utilise pour faire les peaux les peaux qui vont faire donc les téphilines? Quel animal on utilise? Un animal pur.
Cachère,
donc. Pourquoi?
Non. C'est une vache.
Un animal pur.
Même si elle n'est pas cachère.
Pourquoi? Parce que étant donné qu'il est déjà pur, donc il est déjà préparé pour le travail. Il est déjà prêt. Donc maintenant, il suffit de le prendre et de l'enlever.
Même si
la shrita n'était pas cachère. Parce que l'animal est une espèce qui est pure. C'est une espèce qui est pure. Donc c'est une espèce qui ne bloque pas la lumière de Dieu. Tu prends la peau de cochon, ça bloque la lumière de Dieu. Etc. Après, ça s'applique dans beaucoup de choses. Il y a des gens, par exemple, ils veulent pas porter des trucs à base de cuir d'animaux non cachères. C'est un niveau, hein, ça peut. C'est un niveau. Après, voilà. On n'a aucune traçabilité, nous. On ne sait pas d'où vient. Je porte un costume en laine. Est-ce que je sais d'où elle vient cette laine?
Non, bien sûr. Mais elle ne vient pas du cochon, la laine. Hein.
Je comprends, mais d'où elle vient cette laine? Par qui elle a été travaillée? Etc. Parce que concrètement, cette laine, je l'utilise. Je l'utilise pour Dieu maintenant. Là, j'ai mis un costume, je suis néco, donc je l'ai utilisé pour Dieu. Donc, ça a de quoi rendre fou.
Bon, j'ai acheté une paire de chaussures en croco à 1500 euros. Qu'est-ce que j'en fais?
Tu les revends.
Je vais même aller plus loin. Je vais même aller plus loin. Regardez. Si je prends par exemple.
Non, mais c'est un problème.
Je vais aller plus loin. Regardez.
Oui, c'est un gros problème.
Si je prends par exemple, David, je prends par exemple cette pizza. David, raconte-nous comment on fait une pizza.
Attends, je prenais des notes. Hein.
Alors, tout a débuté dans le champ.
Non, raconte-nous. Donc, toi, tu as commencé. On va prendre le côté. Donc, toi, tu as pris une pâte. Cette pâte, tu l'as faite comment?
Non, on a pris la pâte. On a pris la farine.
D'accord, tu as pris la farine. Cette farine, elle vient d'où?
Alors, justement, c'est ça que je veux te dire. Elle vient du champ.
Elle vient du blé. Ce blé, il vient d'où?
Il vient du champ. Non, le blé, oui.
D'accord, il vient du champ. Maintenant, il vient d'où ce champ? Comment il a poussé?
Tu veux savoir d'où vient le vent, c'est ça?
Non, pas du tout. Ce champ, comment il a poussé? Tout d'un coup, il y a eu des herbes de blé.
La graine, elle vient d'où la graine?
On a mis une graine.
Voilà, la graine.
Donc ça veut dire que la graine que tu as ici est issue d'une autre graine qu'il y avait avant.
Ouais. Alors d'où elle vient la première?
Et la première, à quoi elle vient?
Oui.
Elle vient depuis Adam Harishon.
Voilà.
D'accord? Ça veut dire qu'en vérité, dans la pizza qui est ici, il y a de l'énergie du premier grain de blé d'Adam Harishon.
Exactement.
Puisque étant donné que ça vient de là, donc quelque part il est dedans.
J'ai oublié de faire la bracha.
D'accord? Parce que ça fait... Ah bah tu vois, t'es passé à côté. C'est passé, tu comprends? On a eu des milliers de cycles. Ouais. Mais concrètement, quand tu remontes des milliers de cycles, l'énergie qu'il y a dans cette pizza, d'où elle vient? Elle vient, ta première graine qu'il y avait à l'époque d'Adam Harishon. Ça veut dire que quand tu as fait une bracha sur cette pizza et que tu l'as mangée pour prendre des forces pour le cours, tu as ramené vers Akadosh Baruch Hu, t'as mis une énergie, t'as ramené vers Akadosh Baruch Hu, toute la chaîne de production depuis la première graine de blé, tu l'as quelque part élevée vers Akadosh Baruch Hu. Parce que c'était rentable, c'était assez intéressant pour Akadosh Baruch Hu, qu'il y ait une graine de blé qui soit plantée, qui a 1000 cycles, ou même 10 000 cycles de production jusqu'à aujourd'hui, pour qu'un jour un juif puisse étudier la Torah. C'est rentable pour Dieu, ça. qu'il y a 10 000 cycles de production, pour qu'à la fin, il y a un juif qui a profité, et grâce à ça, il pourra faire une mise, c'est rentable. C'est dérentable que pour ça.
Surtout. Mais alors, a fortiori, nous, nous sommes...
Ça va très très loin, ça nous rend fous.
Nous sommes liés, nous sommes le résultat. Nous sommes la résultante de milliers
et voilà
jusqu'à Adam Arishon.
Mais sans fin. Mais quelque part, on rappelez-vous l'exemple du nain sur le géant. On est un nain sur un géant. Donc le nain sur le géant, ce que le nain fait, ça profite au géant aussi. Lorsque le nain il tire en haut, le géant aussi il pousse en haut. Ça va dans tous les sens. Donc là, on commence un petit peu à comprendre comment en vérité on comprend rien. On commence à comprendre que pour être capable de dire est-ce que Mashiach il arrive ou il arrive pas, il faut être dans les coulisses. Et celui qui est pas dans les coulisses, il peut pas parler.
C'est comment ça se passe.
Alors là, c'est pour ça, quand on a des rabbinim qui sont dans les coulisses qui nous disent que c'est proche, on peut leur faire confiance.
Ça
nous,
va, c'est
nous on n'est pas dans les coulisses.
C'est très proche. Par rapport à 6000,
ça bat avant été
dit. C'est par rapport
223 ans, c'est très proche.
Oui, mais pour répondre à cette question, il faudrait être capable d'analyser le monde depuis la création et de suivre l'énergie depuis la création. Et là, automatiquement, tu comprends qu'on comprend rien du tout. Enfin, pas, on maîtrise rien du tout. Donc, dans les mots. Kibasiata, lorsqu'un homme fait une mitzvah, pourquoi on dit que ce qui entraîne la mitzvah est la mitzvah elle-même? Parce que lorsqu'un homme fait une mitzvah, en haut de la page 138, Rabotai, Mam Shira Adam Gilu Yoran Savarum Ilmal Alemata. Un homme fait descendre une lumière divine du haut vers le bas, Leitlabesh Begashmiut Olamase, donc je relis, pour s'habiller dans la matérialité de ce monde, Bedavar Shayat Trila Tarat Moshe Leklipat Noga. On a une énergie divine qui va s'habiller dans un objet, dans un élément, qui était au préalable, qui était auparavant dans un, sous le contrôle de Klipat Noga, c'est-à-dire c'était un élément neutre, ou Mekabel Chayuta Mimena, et qui prenait son énergie d'un élément neutre. Shehem, il s'agit de Kolat Varim Ateorim, tous les éléments purs, ou Mutarim, permis, Shena Set Ba'em Amitzvah Masit, avec laquelle on fait une mitzvah. Voilà. Kegon, par exemple. Klafat Filin, le parchemin des Tefilin, ou Mezouza, et la Mezouza, Vesefer Torah, et le Sefer Torah. Ou que Mahamarazal, comme les Chachamim disent, le Urchar, le Milechet Shamaim, et la Tehorim ou Mutarim Befira, ne sont appropriés pour le travail du ciel, seulement les choses qui sont pures et permises pour ta bouche, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire que je peux utiliser comme peau, pour faire un parchemin, seulement un animal qui est déjà pur. Pourquoi pur? Parce que s'il est pur, ça veut dire qu'il a une énergie qui est récupérable. Si c'est un animal qui est impur comme le cochon, il a une énergie qui est irrécupérable. Donc même si je prends pour faire les tefillin, je peux pas récupérer. Donc ça veut dire que c'est un jeu de récupération d'énergie en vérité. On récupère des énergies. D'accord? C'est un jeu. Les jeunes, ils me disent que ça ressemble beaucoup au jeu des Pokémon. Attraper les tous.
Ah ouais.
D'accord? Bah c'est un peu ça. Bah, bon, je suis pas dedans, mais c'est un peu ça. D'accord. C'est dommage ça en vérité. Celui qui réfléchit, à mon avis, celui qui a créé ce jeu, il devait connaître un peu en Kabbalah, parce que ça, il y a beaucoup d'idées de Kabbalah dedans. Après peut-être non. Hein. Peut-être Hachem, il a créé ce jeu pour qu'on comprenne des idées.
Ouais, dans le jeu, on les voit. On les voit, enfin, on les trouve, on les cherche.
Il y en a qui sont plus rares, il y en a qui sont moins rares.
On les cherche, on les attrape, mais là, on voit rien. Donc, on nous dit qu'il faut faire une bracha, on peut la voir.
Attraper les tous, c'est ça?
Hein? On voit pas les étincelles.
Ok. Et la théorie Mutarim Befira. Pardon.
Dave, tu vois les étincelles, toi?
Vechen, pareil. Etrog. Prenons l'exemple d'un étrog.
On ressent un peu la lumière.
D'où vient le étrog?
D'un arbre.
Maintenant, l'arbre, quel est le cahier des charges pour avoir un étrog caché? D'abord, l'espèce doit être bonne, parce qu'il ne faut pas qu'il ce soit une greffe. Ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. Bon. Mais à part ça, il ne faut pas que le étrog provienne d'un arbre qui est hors là. Vous savez ce que c'est hors là? Hors là, c'est les trois premières années lorsqu'on plante un arbre. On n'a pas le droit de profiter de cet arbre. Rien. Même pas de donner les fruits à un goy. Pas profiter. Alors maintenant, j'ai une question à vous poser. Imaginez que j'ai planté un arbuste. Un arbuste de étrog. D'accord? Et que maintenant, la première année, j'ai un étrog qui pousse. Et j'ai envie de l'utiliser pour faire une mitzvah, pour faire mon loulav. Je me dis, écoute, de toutes les façons, c'est pas grave, j'en ferai pas de confiture après, c'est tout. On va pas en faire un plat, je le mangerai pas, c'est tout. Je le mangerai pas après, mais entre temps, je vais faire une mitzvah avec, et ça dérange si je le prends et je vais secouer avec. Qu'est-ce que te dit la lacha?
Non.
C'est pas cachère.
Même si tu ne manges pas.
Même si tu ne manges pas. Pourquoi? Parce que si la Torah a déclaré que ce fruit est hors là, s'il est hors là, ça veut dire qu'il a une énergie qui est irrécupérable. Il est interdit.
Ouais, c'est pour tous les fruits hors là.
Hors là, pour tous les fruits. Donc s'il est irrécupérable, même si je fais une mitzvah avec, c'est pas récupérable. Ça marche pas. C'est ça ce qui explique beaucoup de choses. Par exemple, il y a des gens qui vont dire, je vais faire un casse et je vais donner de l'argent à la tzedaka. Beaucoup d'argent à la tzedaka. Tu peux dire, attends, regarde. Tu peux dire, l'institution de Torah a gagné au change.
Robin des Bois.
Voilà.
Robin des Bois.
D'accord. Robin des Bois. Tu peux dire, qu'est-ce que ça te dérange? T'avais zéro, maintenant t'as beaucoup. Ah bon, moi aussi j'ai pris mon pactole au passager alors que ça te dérange. Qu'est-ce qu'on te dit? Si ça marche, ça peut pas marcher, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on ne peut profiter que de quelque chose qui est autorisé par la Torah. Quand tu vas prendre de l'argent, tu vas faire avec ça, tu vas construire avec ça quelque chose pour la Torah. Mais cette construction, si à un moment dans la chaîne, c'est quelque chose qui est interdit, t'as bloqué, il n'y a plus d'énergie. Donc tu perds ton temps, tu vas pas élever vers un Kadosh Baruch Hu. Alors si c'est pas pour élever pour un Kadosh Baruch Hu, on perd notre temps, ça sert à rien du tout. C'est pour ça qu'on te dit, le Etrog doit être de quelque chose qui n'est pas Orla.
La loi d'Orla, c'est uniquement pour Israël ou même dans
Angleterre? Ouais, ça c'est une autre question. Non, c'est surtout en Israël.
C'est pas très valable en... Ça discute.
C'est valable en Israël, mais quand on plante en diaspora, c'est une question.
Si je plante un arbre dans mon jardin et que la première année, il y a des fruits.
C'est une question.
Ah, d'accord.
Pas simple.
Il n'y a pas de réponse.
Si, il y a une réponse, mais elle n'est pas simple. C'est pour ça que je n'en ai pas besoin. Alors, chez Orla, et Michel H. Clipote, donc je suis dans la... Voilà, on est dans la note, là. Chez Orla, I, page 139. Chez Orla, I, Michelosh, Clipote, Atmot, les Gamré. Parce que la Orla fait partie des trois Clipotes qui sont complètement impurs, ça veut dire des choses, des éléments irrécupérables. Chez N, la M, Alia, Léolam, qui ne peuvent jamais monter vers un Kadosh Baruch Hu. Comme du cochon, en vérité. Vechen, que c'est comme, c'est-à-dire, quand tu prends un étroc qui est pas cachère et tu fais avec ça ta mitzvah, c'est comme si tu as pris un cochon et tu l'as mis dans ton loulav et t'as secoué. Et kif, c'est la même chose. Vechen, pareil. Kol mitzvah abaa be'avera chas v'shalom. De même, toute mitzvah, qui est chas v'shalom, vient avec une avera. Ça veut dire quoi? C'est quoi une mitzvah be'avera? Imaginez par exemple, je vais aller à la synagogue. Ok? Donc c'est une mitzvah. Mais j'habite au 30e étage, où j'habite à une heure à pied de la chevoule, donc je vais prendre la voiture. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a? Je prends la voiture, 5 minutes de voiture, pour récupérer 4 heures de prière avec un cours. Et je la fais la totale. Le cours avant, le Fabringen après, etc. Ça fait version 5 heures, tu vois, version longue. 5 heures, 6 heures. Tu dis, attends. J'ai pris la voiture 5 minutes, on a gagné 6 heures. Si j'étais resté chez moi, qu'est-ce que j'aurais fait chez moi? Ah, je serais accroché avec ma femme, j'aurais perdu mon temps, etc. Là où je suis venu bien, en forme. Voilà, 5 minutes, on a récupéré 6 heures. Tu réfléchis en business? Bien sûr, je prends la voiture, il n'y a pas de question. On te dit, ça marche pas. Pourquoi? Parce que ça s'appelle une mitzvah abaa be'avera. Une mitzvah qui est venue avec une avera. Et là, c'est très simple. On te dit, lorsque c'est une mitzvah qui vient par une avera, la mitzvah peut pas décoller. Parce que pour qu'elle décolle la mitzvah, il faut qu'on puisse remonter jusqu'au début, jusqu'à la chaîne de production jusqu'au début. Mais là, si au milieu de la chaîne, t'as une avera, Dieu dit, ah, c'est bloqué. Donc tu perds ton temps.
C'est-à-dire, si j'oublie un mouchoir dans ma poche, Shabbat.
Non, papa, on oublie. On parle d'un cas volontaire, là. Par quelqu'un qui prend la voiture pour aller à la synagogue Shabbat.
C'est pas fait exprès.
On parle de quelqu'un qui va voler pour donner la tzedaka.
Comme t'as dit, c'est 5 minutes sur 6 heures.
Bon. Je pense que beaucoup d'entre nous, en tout cas je parle pour moi, quand on a commencé à faire Shabbat, on est passé par cette phase-là. Peut-être pas de prendre la voiture.
Avec un chauffeur, on est venu.
De porter la kippa dans la poche ou d'avoir le paquet de cigarettes.
On n'est pas encore prêt, bien sûr. Mais d'accord,
voilà, après, peut-être, ça, je ne dis pas qu'il faut faire comme ça, mais peut-être
ça a déclenché quelque chose.
Ça a déclenché quelque chose. Ça vaut le coup de faire ça pour qu'après, on finisse.
On peut pas. Je peux pas dire à quelqu'un, venez en voiture Shabbat. Voilà, je peux pas lui dire ça. J'ai pas le droit. Même quand j'invite à la maison.
Tu peux pas dire, mais il peut le faire.
Même quand j'invite quelqu'un à la maison Shabbat.
Oui.
D'accord. Il faut que dans mon invitation, je l'invite aussi qu'il y ait une possibilité de dormir ou qu'il y ait une possibilité de rentrer à pied.
Oui, si,
possibilité probable, logique. C'est-à-dire que c'est faisable.
Oh, mais ça, tu sais très bien que c'est faux.
Non,
tu sais bien que le gars, il fait pas Shabbat.
Après, c'est son problème. Après, moi, j'essaye de lui donner le goût du Shabbat. Mais j'ai pas le droit. Je sais qu'il habite à 2 heures de route ici, je sais qu'il habite à 1 heure de route. D'accord? Je sais qu'il marche, plus pas marcher à pied. Qu'à cause de moi, il va prendre la voiture. Alarmement, c'est un problème.
C'est à cause de toi, la voiture, c'est bien que c'est faux, parce que tu sais tout bien qu'il fait pas Shabbat. Voilà, quand il arrive, si tu l'invites
mais
tu
moi, je l'ai...
pas, il va.
J'ai compris. Mais pourquoi je l'amène à faire Shabbat maintenant? Je vais lui faire une mitzvah. Mais cette mitzvah, elle est passée par une avera. Elle vaut zéro, cette mitzvah.
Celle-ci, mais peut-être que plus tard.
C'est pas une mitzvah.
Non.
C'est pas une mitzvah.
C'est l'alaha. Ce que je vous dis, c'est l'alaha. J'ai pas le droit d'inviter quelqu'un chez moi à la maison Shabbat. Si je ne lui propose pas une option qui est viable, qui est faisable, pour dormir ou bien pour rentrer chez lui.
C'est comme il a dit une fumée, c'est-à-dire que c'est une préparation.
C'est interdit, j'ai pas le droit. Moi, en tant que juif religieux, j'ai pas le droit de faire ça.
Non,
j'ai pas le droit.
C'est interdit pour nous, parce que nous...
J'ai pas le droit. Après, il y a des questions que t'es pas obligé de poser. Par exemple, moi, quand je fais le CDR communautaire, les gens, ils m'appellent.
Exactement.
D'accord? Bon, au début, je posais les questions. Je dis, vous habitez où, etc. Est-ce que vous voulez, on va trouver un CDR? Après, j'ai compris tout de suite que, de toute façon, ils allaient venir. Il m'a dit, mais écoutez, de toute façon, on prend le métro, on prend le tram, on prend la voiture. Je demande au Rav. Le Rav, il m'a dit, écoute, si tu les connais pas, t'es pas obligé de leur demander.
Voilà, exactement.
Toi, tu leur dis, puisque on a fait des publicités, qu'il y a des darim un peu partout, donc ils peuvent venir à pied. Il y en a à côté, il veut venir ici maintenant. T'es pas obligé de lui demander. Mais si je sais pertinemment que c'est quelqu'un de la famille, que je sais qu'à cause de moi, il va prendre la voiture, et que je sais qu'il y a pas de possibilité qu'il va à pied. S'il habite par exemple à une heure, s'il habite à une heure d'ici, je sais qu'une heure de marche c'est faisable. Mais lui il veut pas le faire. Là j'ai le droit de l'inviter. Mais si je sais qu'il habite à deux heures d'ici et qu'il peut pas marcher deux heures, je peux pas l'inviter Shabbat. Si je sais qu'il va repartir en voiture, j'ai pas le droit. Parce que c'est ce qu'on appelle une mitzvah à Ba'a, Be'avera.
T'invites personne.
Pourquoi? Pas du tout.
Et nous on est Balchouba, c'est bien que dans la famille, sûr, dans la famille, si t'as un deuxième qui est Balchouba, c'est un miracle.
Est-ce qu'il y a une possibilité, par exemple, de le faire dormir à la maison? Est-ce qu'on lui a proposé ça?
Quand t'invites pas une personne, tu vas inviter une famille.
J'ai compris. Est-ce qu'il y a une possibilité, qu'il rentre à pied? Ou c'est impossible? Je ne parle pas est-ce qu'ils vont le faire.
Tous les cas sont possibles.
Tu as du mal à te mettre à notre place, parce que t'as pas été élevé comme ça. Mais pour des gens comme nous, non, mais c'est vrai, pour des gens comme nous, moi, quand j'ai fréquenté des...
Nous, c'est notre Saïm, nous.
Et j'ai commencé à faire Shabbat. Franchement, au début, j'allais très loin.
On a parlé avec le Rav. On a parlé. Non, mais j'ai eu des cas comme ça.
En tout cas, voilà, je voulais retrouver des amis. J'allais très très loin et je pouvais pas y aller.
Ça, c'est votre problème.
Oui. Mais la réponse qu'il t'a donné le Rav à toi, il va pas nous donner la même.
Mais c'est la même réponse pour la halakha.
Je pensais faire une mitzvah.
C'est ce qu'on appelle une mitzvah Aba'a Be'avera. C'est tout. Mitzvah Aba Be'avera.
Bon, en tout cas, tout ça pour dire que bien sûr, c'est pas bien, mais.
Je donne un exemple. Je dis par exemple à quelqu'un, viens à la synagogue Shabbat. Je sais qu'il habite au 30e étage et je sais pertinemment que pour venir à la synagogue, il va prendre l'ascenseur. J'ai le droit d'inviter à la synagogue pour venir Shabbat parce que s'il veut, il peut descendre à pied.
C'est compliqué. Parce que moi, si j'avais pas fait ça, aujourd'hui, je serais pas où je suis. C'est clair. C'est-à-dire, si j'avais pas
fait ça, les adieux.
Amen. On est tous dans
le sens de Shabbat. Attention.
Je
ne parle pas de celui qui est invité.
J'arrête la télé.
Je ne parle pas de celui. Non, mais non.
L'ascenseur.
Je ne parle pas du Baal Teshuvah. Je parle de celui qui invite.
Ouais.
Celui qui invite, te proposer quelque chose de viable. C'est tout. Et on fait ce qu'on peut.
Bon, lui, on voit un chauffeur.
Bref.
De l'épine naît la rose.
Oui.
Donc après, des fois, dans la Torah, il y a des choses. On a vécu des épisodes ou des situations qui paraissent complètement contradictoires.
La fin ne justifie pas les moyens.
D'accord, mais des fois, de quelque chose peut-être de...
Mais ce qu'il dit ici, il dit quelque chose de très simple. Il te dit que la fin ne justifie pas les moyens. Une mitzvah ne peut pas venir par une avéra. Une mitzvah doit venir d'un élément neutre. Sinon, c'est pas une mitzvah.
Ah oui.
Sinon, elle est bloquée. Sinon, c'est comme le hétrog. Sinon, c'est comme le hétrog que j'ai pris d'un fruit hors là. Et j'ai fait dessus 10 000 cavanotes pendant Soukhot. Il vaut rien, ton hétrog. C'est tout. Après, c'est vrai que c'est délicat. C'est au cas par cas. Après, il faut poser au cas par cas. En général, quand on est sur Paris, quand tu invites quelqu'un, à moins qu'il habite au fin fond des Yvelines et que c'est impossible qu'il vienne à pied.
C'est un Uber.
D'accord? Non, ça change rien, Uber.
Pourquoi tu commandes avant Shabbat?
Le paye
pas en plus. Tu commandes avant Shabbat. Quel est ton problème?
Il monte dans la voiture, c'est sûr.
Écoute, on fait des sacrifices.
Tu sais, aujourd'hui, maintenant, ils ont rajouté une option dans Uber, programmer une course.
Avant Shabbat.
Tu programmes la course.
Là, prends le métro.
L'ascenseur sabbatique.
Mais attends, l'ascenseur sabbatique, tu vas gérer, c'est la même chose.
Non.
Automate.
Non, mais.
C'est pas marqué
Uber, attends, tu commandes avant Shabbat un Uber.
Écoute, non.
Tu commandes avant Shabbat un Uber. Le Uber, il vient. Donc tu dois payer toi avant Shabbat.
Oui, mais c'est un problème. Il n'y a pas où prendre la voiture Shabbat, c'est sourd. C'est sourd. Et ben, il n'y a pas où aller.
Le tram, quand il rentre dans la voiture,
c'est sourd.
Non, mais là, tu fais une mise en place un Uber.
Ok. Vechen, pareil. Alors, on continue. Donc, pareil. En fait, c'est la même chose. C'est comme Umaot Hatzaka chez Enam Gezel. Regardez ce qu'il dit. Je l'ai sauté, ça, mais on va le lire. En bas de la page 138. Umaot Hatzaka chez Enam Gezel. Ne pas prendre de l'argent de la Tzedaka, une argent de la Tzedaka qui n'est pas volé. Pourquoi? Parce que quand je fais la Tzedaka, qu'est-ce que je fais? Je prends de l'argent. C'est quoi l'argent? D'où j'ai eu cet argent?
J'ai travaillé.
Non, j'ai travaillé. Donc dans cet argent, j'ai mis mon énergie. J'ai mis ma sueur dans cet argent. Donc lorsque je donne la tzedaka, c'est comme si je fais un sacrifice. Parce que j'ai donné une partie de ma chair. Il y a une partie de ma chair qui est dans cet argent. Vous êtes d'accord avec moi? Lorsque, pour gagner cet argent, j'ai gagné littéralement à la sueur de mon front. J'ai travaillé. J'ai donné de moi-même. De mon intellect, de ma force, de mon énergie, de ma transpiration. J'ai donné de moi-même. Donc lorsque je donne la tzedaka, je prends cette énergie qui représente mon travail et je la permets de s'élever vers Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui se passe maintenant si l'argent que je prends est un argent qui est volé? Ça pose problème. Pourquoi? Parce que quel argent peut monter chez Akadosh Baruch Hu? Quel argent peut monter chez Akadosh Baruch Hu? C'est seulement un argent qui a été neutre, que j'ai gagné de façon neutre. Comme il était neutre, donc dans ce cas-là, il est débridé, il peut monter chez Hachem. Mais si c'est un argent qui est volé, c'est un argent qui est bridé, qui est tiré vers le bas. Je ne peux pas le monter vers Akadosh Baruch Hu.
C'est débile de voler pour donner sur la tzedaka. Quel intérêt?
Il y a des gens, pour tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses en Israël ou et autres, hein, enfin bon, on va pas, d'accord, et pour calmer leur conscience, ils donnent beaucoup de zaka. C'est ça que je parle.
Alors justement, ouais.
Ils donnent beaucoup de zaka. Ils volent de l'argent. Ils volent de l'argent. Arnaque au patron, CO2 ou je sais pas quoi, toutes ces bêtises là, d'accord?
Non mais ça c'est pas.
Et après ils donnent des grosses tzedaka. On te dit voilà.
C'est maison d'un.
D'accord. On te dit c'est du vol. C'est de l'argent sale. C'est tout. Moi, je sais une fois le Rav Azimov, c'est un de ses lettres qui nous a raconté. Une fois, il y a une personne qui est venue le voir. Et il y a deux cas. Premier cas, c'est une fois une personne qui est venue le voir et qui voulait donner une grosse somme de tzedaka, mais il savait très bien que cette personne-là, il travaillait dans un métier qui n'était pas cachère. Il travaillait le Shabbat. C'est un métier qui n'était pas très propre.
C'est bon pour nous.
D'accord.
Et alors comment on fait?
Eh ben il a refusé son argent. Et pourtant je peux vous dire hein, qu'il était en manque, et que ça lui a coûté très cher.
S'il n'avait pas su, il aurait pris et finalement il aurait pu s'en
tirer. Pas du tout, parce que Dieu il a aidé de le savoir, comme ça, c'est tout.
Oui,
il y a aussi une fois une autre personne, c'est ce qui s'est passé. Une autre personne est venue voir Rav Azimov et lui a dit: si vous convertissez cette femme, parce qu'il voulait se marier avec elle, si vous convertissez cette femme, je vous donne un gros don. Rav Azimov il l'a renvoyé.
Si vous quoi?
Il voulait se marier avec une femme.
Oui.
Mais une femme qui voulait pas être juive.
On va comme ça. Monsieur le rabbin, on peut s'arranger, monsieur.
D'accord. Eh ben non, il a viré. Il a viré. Il a viré. Et pourtant, c'était une grosse somme, hein. C'est un de ses aides. Et c'est pas grave, parce que c'est un principe.
À Deauville.
C'est un principe. Tu veux faire. Pourquoi tu prends de l'argent? Pour construire une institution de Torah. Pourquoi tu fais une institution de Torah? Pour monter chez HM. Si maintenant, à un moment, la chaîne de production est bloquée, tout est bloqué. Ça montera pas vers un cas de jour. À quoi ça sert? Ma'ot atzaka she'enam gazel, l'argent de la tzaka, comme on a dit, ne doit pas être volé. Alors, on va lire encore juste deux lignes, on va s'arrêter, on va terminer avec le dessert. Donc, vekayotse ba'em, etc. Au passage, d'accord? Quand je dis de l'argent volé, l'argent volé, ça peut être, et là je vais aller un peu plus loin, l'argent volé, ça peut être même quelque chose de beaucoup plus subtil. Écoutez ce qui est écrit dans Sefer Chassidim. Non, même pas casino. Il y a aussi ça, mais... Imaginez par exemple quelqu'un... Rabotage, vous êtes avec moi?
Non, mais il n'accepte pas. Si tu as gagné au casino, il n'accepte pas.
C'est pas du vol. Tant que c'est pas du vol, c'est pas du vol. C'est pas du vol. Moi, je n'irai pas au casino, mais bon...
Non, non, mais si quelqu'un va au casino, il fait un don à Rav Azimov, Zirkono le Barra, est-ce que dans ce cas-là, il est capable?
Ça, c'est bon, ça.
Il tient un casino ou il est parti d'un casino?
C'est pas
illégal. C'est l'argent légal.
Non, mais est-ce que Rav Azimov aurait
accepté? Oui, oui.
Ça dépend.
Ça, c'est l'argent légal, le casino.
Bien sûr, c'est légal.
C'est légal.
Oui, c'est légal à 100%.
Mais bon, on n'a pas le droit, non?
Hein?
On préfère suivre.
Non.
C'est légal aussi, les courses.
Bon, les courses, c'est plus compliqué. Alors, écoutez ce.
Ça va loin, là.
Non, les courses, c'est compliqué. Imaginez ce cas. Pour vous montrer à quel point le vol peut être subtil. Je vais terminer avec ça. Imaginez une personne qui doit de l'argent. Il doit de l'argent à quelqu'un d'autre. Il doit 1000 euros à un ami. D'accord? Il doit 1000 euros. Maintenant, il a 1000 euros en poche. Et au lieu d'aller rendre ces 1000 euros à son ami, qu'est-ce qu'il va faire avec ces 1000 euros? Non, il va les donner à la tzedaka.
Ah.
Eh bien, on te dit, dans Sefer Hassidim, il te dit, quelque part, cet argent est entre guillemets un argent volé.
Bah oui.
Oui, mais
entre guillemets. Attends. Laisse-moi parler. Entre guillemets, ça s'appelle un argent volé. C'est pas de l'argent volé, parce qu'il va le rembourser, il finira par rembourser. Mais quelque part, c'est de l'argent qui n'est pas propre à 100%. Parce que t'avais de quoi rembourser, il fallait rembourser. Je parle bien sûr quand la dette est arrivée. La dette est arrivée, maintenant l'autre, il n'est pas dans tes poches, c'est parce que tu as ce que tu n'as pas. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, quand on fait une mitzvah, la mitzvah doit être la plus propre possible. La plus propre possible. Plus la mitzvah est propre, et plus elle peut décoller, plus elle peut décoller vers un kadosh barouh. Et c'est la raison pour laquelle, vous savez, chez tous les chachamim, et ça on l'a vu chez le rabbi, et chez beaucoup de grands chachamim, chaque fois qu'ils faisaient une mitzvah, ils insistaient pour payer. Les gens, ils voulaient leur offrir des livres de Torah, des trogs, etc., des loulaves, tout ce que tu veux. Ils voulaient payer, tout le temps. Paye. Ça, on tient du Harizal. Le Harizal, chaque fois qu'il voulait faire une mitzvah, il payait.
On tient de garder le balai,
ça. Pourquoi il paye ?
Comment ça fait ?
Pas pour faire le riche. Il paye parce que il veut avoir une chose la plus cachère possible. Il veut, lui, maîtriser la situation. C'est moi qui a donné, c'est moi qui a payé. J'ai acheté quelque chose qui était nul, c'est pas de problème. C'est une des raisons. À part ça, il y a une autre raison qui est écrite dans Michelet, qui dit que celui qui est les cadeaux vivra longtemps. C'est une façon de dire que voilà, chacun construit avec ses propres moyens. En tout cas, ce qu'on a compris, et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je termine, s'il vous plaît. Srar mitzvah, mitzvah. Le salaire du mitzvah est une mitzvah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je fais une mitzvah, le plus grand salaire que j'ai, c'est quoi? C'est que la mitzvah génère une énergie et la mitzvah change le monde autour de moi. Sans que je me rende compte, la mitzvah que je fais est en train de changer le monde qui est autour de moi. Ça, il faut bien garder à l'esprit. Et c'est pour ça qu'on est en train de nous dire que l'avènement messianique, la Géoula, n'est pas un nouveau monde, n'est pas un nouvel événement. C'est simplement un moment dans lequel la Kadosh Baruch Hu te dit, maintenant on va te permettre de t'allumer la lumière, d'allumer le Aleph, et de profiter de la Gola, de profiter de tout ce que tu as construit pendant la Gola, pendant l'exil. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas désespérer. Les gens, ils pensent, je termine avec ça, que la galoute, c'est une punition. Et c'est exclusivement une punition. Beaucoup de gens pensent comme ça. Du style, t'as fait le malin, allez, on te met en tôle. Tu continues à faire le malin, eh ben, au lieu de 10 ans, tu vas faire 15 ans. Au lieu de 15 ans, 20 ans. Au lieu de 20 ans, 1000 ans. Au lieu de 1000 ans, 2000 ans. Allez, vas-y, 2000 ans en tôle. Donc, du coup, on se dit, mais attends, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? On est en galoute, on est en exil pour rien du tout. Pas du tout. On n'est pas en exil pour être en exil. On n'est pas en prison pour être en prison. On est là pour réparer ce qu'on a fait. On est en train maintenant de réparer le mal qu'on a causé dans le monde depuis Adam Harishon. On est en train de le réparer. C'est pour ça. C'est pas une punition que Kadosh Baruch Hu nous donne pour nous dire, t'as fait le malin, alors on va te mettre dans le coin, tu vas rester en prison. Mais là, en prison, t'es pas productif. Tu sers à rien. Non! Lorsque Kadosh Baruch Hu nous donne une punition, dans la punition, je répare la faute que j'ai faite. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On est en train de rendre ce monde un endroit meilleur dans lequel Akadosh Baruch Hu est bienvenu. Et ça, Bezrat Hashem, ça viendra avec Mashiach. Mashiach sera le moment, le point culminant. Mais je préfère vous prévenir, on a fait que quelques lignes, c'est un chapitre qui est long et on a encore beaucoup, beaucoup à développer sur Mashiach. Il y avait des questions. Allez-y.
Moi ?
Bien sûr. Bien sûr, vous voulez pas de cadeau. Vous voulez payer. On paye. C'est à nous. C'est à nous, on a payé. Bien sûr. C'est à nous.
Ça, ça va.
Voilà.